Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 636 du podcast Touch en Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos aventures en 2023, 13e saison du podcast. Victor Roulier est à mes côtés. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Comment ça va Victor, après ce troisième week-end NFL, pas tout à fait terminé évidemment, puisqu'on enregistre le lundi soir, il reste deux matchs que vous découvrirez dans l'autre débrief, mais comment ça s'est passé ce dimanche?
Bah, très bien, honnêtement, un incroyable week-end de NFL, il y a eu des grandes histoires et on va en parler. Je dirais que le seul petit défaut, c'est qu'il y a un certain Alain M qui m'a obligé avec évidemment un pistolet sur la tempe, à regarder les Bears deux semaines de suite, donc c'était assez difficile à vivre. Mais mis à part ça, tout est parfait.
J'ai obligé personne à rien du tout, mais en plus vous êtes répartis les matchs pendant que je faisais le fauteuil, j'ai découvert après qui avait pris quoi. Un carton, une surprise, un sauvetage, c'est en effet ce qui nous attend dans le débrief des trois affiches de la semaine 3. Ensemble. C'est le programme du jour. Avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par 6play. Vous vivez la saison régulière sur 6play cette année à 19h sur 6play.fr, l'appli 6play, Apple TV, Android TV, Fire Stick également et en replay par la suite évidemment. C'est tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement. Ce dimanche, c'est suspense parce qu'on les donne à chaque fois en premier dans ce podcast qu'on enregistre et qu'on met en ligne le mardi matin, ce sera Bills-Dolphins cette semaine. On finit le tour de la AFC Est parce que c'était Jets-Patriots la semaine dernière. Bills-Dolphins et ce sera une nouvelle fois Lucas Vola et Grégory Richard aux commentaires. Victor, on commence en parlant d'AFC Est d'ailleurs par les Miami Dolphins et les Denver Broncos. Ça se jouait à Miami et ça a terminé avec un score de 70 à 20. Vous ne rêvez pas, 70 points, on ne l'avait jamais prononcé dans l'histoire des 13 saisons du podcast Touchdown Actu parce que c'est le troisième plus gros total de l'histoire de la NFL. Le record, c'est 72. Alors, on se posait la question hors antenne avec Victor. Il y a un 73 points en 1940 des Bears qui a eu lieu, mais on ne sait pas pourquoi la NFL ne le compte pas dans la stat officielle. Enfin bref. Grosso modo, c'est un gigantesque carton, c'est le plus gros carton du 21e siècle. Et évidemment, c'est un match quand même assez dingue qu'on a vécu. Les stats sont complètement dingues. 10 touchdowns pour Miami, 726 yards, 376 à la passe, 350 au sol, 14 points dans le premier quart, 21 dans le second, 14 points dans le troisième, 21 dans le quatrième. Attention, question polémique, Victor, parce que je sais que là, c'est vraiment polémique. Hein. Est-ce qu'on est face à la meilleure attaque de la NFL ?
Ah oui, question très difficile et je vais vous répondre en 17 points. Oui, non, évidemment, évidemment. C'est la meilleure attaque. C'est avant le début de la saison, on disait c'est la meilleure attaque aérienne. Est-ce que le sol va faire le travail? Résultat, tu l'as dit, 350 yards, 5 touchdowns au sol. J'ai des chiffres devant les yeux, je ne les crois même pas. J'arrive même pas à les prononcer tellement ça paraît irréel. Donc oui, le jeu au sol est enfin au niveau. Devon Achane vient de faire un grand pas vers le titre de rookie d'année en seulement un match. Non, écoute, superbe démonstration. Même la ligne qui a été critiquée a raison, hein, parce qu'elle est inégale en termes de talent. Et ben, elle fait le travail et incroyable coaching de Mike McDaniel. Enfin, c'est un rouleau compresseur. 70 points, tu as dit, on l'a pas vu depuis les années 60. C'est incroyable.
Une stat marrante, il y a Mike White qui est rentré en relève de Tua Tagovailoa en fin de match, parce que bon, évidemment, c'est monté assez vite, hein, vous l'avez vu au niveau du score. Même Mike White, il a 2 sur 2 à la passe, 67 yards en 2 passes et 1 touchdown. Ce truc était surréaliste. On parlait de résumé de match dans l'intro, donc celui-là était pour moi, pour le coup. Il faut le dire, le dimanche, dans la foulée du fauteuil, je fais quand même quelques trucs, je mets les replays du podcast en même temps, quelques petits trucs qui se passent en même temps. Là, pour le coup, j'avais le match en même temps et c'est vrai que ça passait très très vite. C'est-à-dire que je mettais mes petits replays et mes machins et je voyais le score qui gonflait à chaque fois que je tournais la tête. Donc c'était quand même assez impressionnant. T'as mentionné Mike McDaniels, Victor. C'est pour lui le crédit. On a l'impression qu'il rend tout facile pour cette attaque.
McDaniel, parce que McDaniel
oui, pardon.
McDaniel, alors, non, mais... il a un peu moins de...
Alors, je vais te dire, j'ai mis McCarthy dans le résumé aussi. Quelqu'un m'a fait remarquer, j'ai fait la coquille que j'ai corrigée. Je m'embrouille en tous les Mike coach, McDaniels, McCarthy, Mike... donc Mike McDaniel, il n'y a pas de S en effet. C'est pour lui?
Oui, c'est aussi pour lui. C'est-à-dire que c'était une éminence grise de Shanahan... Epoch Niners, on se demande presque si le maître a dépassé, si l'élève a dépassé le maître. Mais les deux sont très bons, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sa spécialité, c'était la construction du jeu de course. Et c'est vrai que vu l'effectif qu'il avait, l'année dernière, par exemple, on n'a pas particulièrement vu le jeu de course. Et là, on voit que cette équipe commence à arriver à maturité. C'était irréaliste. On regardait le match, on n'y croyait pas. La prochaine fois que je marque 70 points sur Madden, j'arrête de croire que c'est irréaliste. Je sais que c'est possible.
C'était impressionnant le jeu au sol. C'est son truc, le jeu au sol. Tu veux dire que Devon Achane, 203 yards en 18 courses, ça fait 11,3 yards par course. Raheem Mostert, 82 yards en 13 courses, ça fait 6,3 yards par course. Et Chris Brooks, 66 yards en 9 courses, ça fait 7,3 yards par course. Donc en effet, c'est délirant. Tua Tagovailoa, toujours au rayon délirant, c'est 23 sur 26. 309 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Donc si on met avec le Mike White, ils ont quand même fait un 25 sur 28. Ils ont tenté 28 passes, ils n'en ont manqué que 3. Tyreek Hill fait presque un match discret à côté des autres. Hein, 9 réceptions, 157 yards, un touchdown, c'est quasiment rien, hein, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est dingo. Ils ont les armes, ils ont la tactique. Il faut le dire quand même, tu vois, Tagovailoa, on avait un peu peur. Après, il fait un très bon début de saison dernière, mais il se blesse. Derrière, il y a les commotions cérébrales, etc. On avait très peur. Là, c'est quand même un des meilleurs quarterbacks de la ligue sur le début de saison.
Bah, pour l'instant, après 3 semaines, c'est de MVP. Si aujourd'hui, tu devais voter, honnêtement.
Oui. Bah, oui, ça se...
Tout simplement.
Ça se discute, oui, 8 touchdowns, 2 interceptions en 3 matchs, 1024 yards, oui, il y a de quoi faire, c'est tout à fait possible. J'étais pas déjà, tu vois, tu m'as surpris, j'étais pas prêt pour les débats MVP en semaine 3, mais oui, c'est un des meilleurs quarterbacks là du moment. Faut se pencher quand même côté Denver, parce que même avec une bonne attaque en face... personne n'avait pris 70 points, tu l'as dit, depuis, je crois, les années 60, donc les dernières fois. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Denver pour qu'il y ait une explosion pareille?
Bah, c'est d'autant plus surprenant que si c'était la défense des Cardinals ou une défense très très faible sur le papier, tu te serais dit, bon, 70 points, ça fait mal, c'est la vie et tout. Mais la défense des Broncos, c'est quand même censé être une bonne défense, en fait, de base.
C'est ça, c'est top 10 l'an dernier sur les yards encaissés. Il y a Patrick Surtain, Justin Simmons, Randy Gregory.
Alors, Simmons, il a pas joué ce match, mais oui. C'est clair que, enfin, je veux dire, c'est censé être une très bonne défense, bien coachée en plus, théoriquement, enfin, avec un coordinateur expérimenté. Là, on est devant un phénomène de désintégration collective. Alors, est-ce que ça veut dire que le groupe vit mal? J'en sais rien. Est-ce que c'est juste une soirée en enfer et puis tout s'accumule, c'est effet boule de neige, tu sais plus où donner de la tête, tu fais que des bêtises? C'est possible aussi. Mais la réalité, c'est qu'une défense de Denver doit pas prendre 70 points. C'était ridicule. Et je pense que le coaching est quand même largement coupable. Parce que il y a un moment, quand t'as déjà pris 28 points en je sais pas combien de minutes, tu fais des stratégies défensives quand même un peu plus prudentes, tu vois, pour quand même pas venir te prendre une pilule. Le match, il était déjà terminé. Et non, il continue à essayer d'être agressif. Quand t'es agressif contre cette équipe-là, bon.
C'est le jour 100 ultime, hein, quand même. Hein, si c'est un jour 100.
Ah, c'est le jour 100 ultime. Nathaniel Hackett n'a jamais réussi ça. Hein. Pourtant, lui qui s'était fait critiquer par Sean Payton.
On rappelle quand même, par contre, pour la défense, c'est qu'il y a eu un changement de coordinateur. Hein. L'an dernier, c'était Giro et Vero. Là, cette année, c'est Vance Joseph.
Oui, enfin, Vance Joseph, c'est quand même pas...
Normalement, c'est un bon coordinateur.
C'est quand même un mec qui a une sacrée expérience, quoi. C'est quand même un mec qui a une sacrée expérience.
Mais dans ces conditions-là, Russell Wilson, c'est quasiment pas un sujet. Je veux dire, 23 sur 38, un touchdown, une interception. Bon, ils faisaient leur match au début, c'est-à-dire qu'ils mettent une dizaine de points, je crois, sur les trois premiers drives. Ils mettent un touchdown, ils sont pas totalement largués, ils sont à 7-14 à un moment. Mais tu peux pas suivre 70 points, ça n'existe pas, de toute façon, là.
Non, mais même l'année dernière, c'est vrai que ça a beaucoup tapé sur Russell Wilson, et à raison, parce qu'il était... déjà, il avait apporté beaucoup d'espoir avec son trade et il était celui qui était censé faire gagner cette équipe. La réalité, c'est que tu regardes, après 3 matchs, il a 800 yards, il a 6 touchdowns, il a 2 interceptions, il fait pas trop d'erreurs, il fait avancer l'équipe, etc. Est-ce que c'est à cause de Russell Wilson cette équipe perd actuellement? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris 108 points en 2 matchs? Peut-être oui, tu vois. Mmh. Surtout que, même contre un Washington, ils en prennent 38. Donc, c'est un jour 100. Mais la réalité, c'est que déjà la semaine dernière, ils étaient aux fraises. Donc, il y a un vrai problème.
C'est ce que j'allais dire. Ils en avaient déjà pris beaucoup quand même contre Washington. Donc, c'était quand même un signe avant-coureur. Ils en prennent 35.
35, 33.
Mais c'est déjà pas mal. Bon, le point positif, ce sera Courtland Sutton. C'est un peu réveillé avec 8 réceptions dans ce match. Mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. On va pas dire que Sean Payton est en difficulté ou qu'il est menacé après 3 matchs, de toute façon. Donc, il faut juste avancer maintenant pour Denver.
Là, c'est opération rachat, comme on dit dans d'autres sports. Enfin, t'es à 0-3. Là, ton but chaque semaine, ça va être de pas être ridicule. Ouais. Parce que toute l'année, les supporters adverses vont te rappeler que t'as pris 70 points. Parce que ça va être...
Oh, ça va vite, tu sais, on vit en 2023, hein. Le temps d'attention, c'est un petit peu réduit. Dans 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, s'ils ont gagné 2-3 matchs, on n'en parle plus, franchement. Donc Sean Payton, encore une fois, tu l'as dit, ce sera de l'opération rachat. Petit quiz pour terminer. Tu l'as dit, dernier match qui s'est terminé avec autant de points, c'était en 1966. C'était qui contre qui et c'était combien de points?
C'était 72, j'ai lu hier, c'était Redskins.
Ouais.
Par contre, c'était contre qui
une équipe qui joue souvent.
Les Giants?
Ouais.
Ah.
C'était un Washington Giants qui avait donné 72 points pour... J'ai pas le score des Giants, mais 72 points du côté de Washington. On passe au match entre les Vikings et les Los Angeles Chargers. C'était un duel très périlleux puisque les deux équipes étaient à 0 victoire et 2 défaites. Finalement, c'est Minnesota qui encaisse sa 3e défaite et les Chargers qui relèvent un peu la tête. 28-24 pour les Chargers. Un match entre les Vikings et les Chargers. Évidemment, ça allait être un festival d'action. Ce sont les Vikings qui gagnent le festival du Portnawak. Ils avaient le ballon avec une première égale à 6 yards de la end zone. Il reste 41 secondes à jouer et là-bas, on marche. On laisse le chrono défiler, hein, on est tranquille, quoi, jusqu'à 12 secondes de la fin, on sait pas trop ce qu'ils font. Là, Kirk Cousins, ça y est, il faut lancer une action, interception, game over. Ça a été beaucoup fait, le titre, dans les médias américains, Victor, mais c'est vrai qu'on peut pas s'en empêcher de dire que les Vikings ont été plus Chargers que les Chargers.
C'était tout ce qu'on pouvait espérer de ce match, en fait. Je crois que, vraiment, c'était le match qu'on attendait. On attendait que ce soit ça, et ça a été ça.
Écoute, c'est fou comme c'est écrit avec ces deux équipes.
Non, mais c'est Cousins, il a fait son Cousins. C'est-à-dire qu'il fait 367 yards, 3 touchdowns, il porte son équipe, il joue la plupart du match plutôt bien et tout. Et à la fin, tu dis gestion du chrono catastrophique, passe dans le trafic immonde qui mène à interception. Enfin, du cœur cousine dans le texte, quoi. C'est très difficile à comprendre. Et de l'autre côté, en soi, ça a été propre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et j'ai envie de dire que finalement, c'est peut-être ça qui les a sauvés, c'est qu'ils ont fait moins d'erreurs que les mecs en face.
C'est vraiment évidemment un drôle de match. Bon, les Chargers ont marqué le touchdown de la victoire à 8 minutes de la fin. Derrière, on a eu échec sur quatrième tentative des Vikings, échec sur quatrième tentative des Chargers, interception des Vikings. L'échec sur la quatrième tentative des Chargers, quand même, c'est sur leur propre 24 yards à 1 minute 51 de la fin. Alors, évidemment, tu le tentes, c'est balle de match.
Mm-hmm.
Donc, ils mangent leur dernier temps mort, si je dis pas de bêtises, les Vikings avant ça. Mm-hmm. Donc, c'est défendable de tenter cette quatrième et 1 à 24 yards de time zone en menant de 4 points.
Ah, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire.
Très bien. Donc, il fallait faire différemment, peut-être.
Non, non, ça passe pas, ça passe pas, c'est la vie, mais il fallait la tenter. Après, le problème de ces Chargers sans Ekeler, c'est que c'est incroyablement unidimensionnel, en fait. C'est-à-dire que les Chargers, sur ce match-là, ils font 30 yards en 15 courses, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même catastrophique et tu peux pas t'empêcher de penser que s'ils ont Ekeler, ils passent plus facilement ces troisième, quatrième tentatives qu'ils ont eues tout au long du match.
Après, je parlais de la forme parce que la quatrième et un, c'est Joshua Kelley plein centre. C'est un peu la mode du quarterback sneak. Toi-même, tu sais, à Philadelphie, Justin Herbert est une armoire à glace. Est-ce que c'est pas un truc qui se tente? Tom Brady l'a fait pendant 15 ans. Je comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Mais...
Oui, bah après, s'ils veulent faire du touch push, ils peuvent. Hein. Apparemment, bizarrement, quand c'est Philadelphie qui le fait, c'est de la triche. Et quand c'est les autres, ça marche pas. Donc, c'est quand même assez bizarre. Mais non, ils pouvaient faire un sneak aussi. En soi, l'action ne paraît pas honteuse pour autant.
Très bien. Bon, il y a quand même donc du bon en attaque du côté de Los Angeles, en dehors de cette polémique, semi-polémique en tout cas, puisqu'ils s'en sortent bien. Il y a quand même du très bon. 40 sur 47, 405 yards, 3 touchdowns pour Justin Herbert. Il y a une passe de touchdown de Keenan Allen aussi une action truquée. Keenan Allen qui prend 18 réceptions pour 215 yards. Là, pour le coup, on parlait de coordinateur défensif tout à l'heure du côté de Denver. Là, coordinateur offensif, Kellen Moore, il se régale avec Justin Herbert.
Oui, et il se régalait aussi avec Mike Williams qui a fait 121 yards et un touchdown, mais si j'ai bien lu ce matin, apparemment Williams serait blessé.
La blessure au genou est inquiétante.
Donc,
on n'a pas encore le résultat officiel au moment où on enregistre.
Voilà, on parle de la saison, alors est-ce que ça sera le cas ou pas, vous le saurez sûrement quand vous allez écouter ce podcast, mais...
Oui, c'est possible, ouais.
Mais c'est vrai que malgré tout, ça reste une attaque ultra flamboyante au niveau aérien. Moi, je trouve que la surprise vraiment depuis maintenant quasiment un an, parce que ça fait deux demi-saisons, quoi, c'est Joshua Palmer qui est vraiment en train de s'imposer comme, si tu veux, une autre arme, vraiment avoir une troisième arme comme ça. C'est-à-dire qu'au moment, les rares fois où ils ont réussi à contenir Keenan Allen, c'est parce qu'ils mettaient un safety pour aider. Et donc, du coup, ça libère Palmer. Enfin, non, c'est... Tu sens que cette équipe, elle monte en puissance sur le plan aérien. Il y a juste à espérer que Ekeler revienne vite pour équilibrer peut-être un peu cette équipe.
Ouais, la blessure de Williams, en effet, c'est clairement la seule alerte et le point négatif. Toujours 12 pénalités quand même. Extrêmement indiscipliné du côté de Los Angeles. Ça aussi, ça reste un problème, mais la bonne nouvelle, surtout défensive, 4 sacks, 13 quarterback hits, est-ce qu'ils voient un petit peu le bout du tunnel de ce côté-là? Ils ont quand même pris beaucoup d'armes de Justin Jefferson, mais c'est Justin Jefferson.
Moi, je trouve quand même que la défense aérienne, ça reste compliqué, et quand on voit J.C. Jackson qui a été... Il avait signé combien? 85 millions de dollars, un truc comme ça?
Il avait signé un gros contrat, ouais.
Maintenant, il est carrément inactif alors qu'il est en bonne santé. Enfin, c'est en train de devenir une catastrophe.
Derwin James sort sur blessure aussi. Hein.
Ouais. Moi, je... Ouais. Alors, oui, c'était mieux sur la pression, c'est vrai. Mais la couverture me fait toujours aussi peur.
C'est un peu le souci. Est-ce que c'est déjà fini pour les Vikings? 0-3.
C'est non, parce qu'ils sont dans une division homogène, mais ça commence à devenir très compliqué, oui.
Ça commence en effet à devenir très compliqué, parce que seulement 4 équipes ont réussi à faire les playoffs après avoir commencé par 0 victoire et 3 défaites. Alors, on n'était pas encore aux 17 matchs, mais il n'y a que 4 équipes qui l'ont fait. C'est les San Diego Chargers de 92, les Lions de 95, les Bills de 98 et les Houston Texans de 2018. Avec DeSean Watson. On termine avec le match entre les Cardinals et les Cowboys. La petite surprise de la nuit, Cardinals 28, Cowboys 16. Les Cardinals ont surpris par leur niveau pendant les deux premières semaines, mais sans conclure. Cette fois, c'est fait. Belle victoire surprise contre Dallas. Arizona a pris l'avantage 15-3 en début de match, 21-10 à la pause. Les Cowboys sont revenus à 21-16 dans le dernier quart, mais Arizona n'a pas craqué avec un touchdown de Marquise Brown pour la victoire. Victoire, 222 yards au sol, bonne défense. Ça ressemble à une victoire à l'ancienne, au courage.
Bah écoute, ils ont été récompensés parce que entre la semaine dernière et cette semaine, ils méritaient d'en gagner un quand même. C'est une équipe, comme tu dis, c'est pas flamboyant, c'est pas incroyable, mais ça fait le boulot. En fait, ça a été propre. Hein. Dubs a été très propre, Connor a été vraiment très bon. La défense a pris ce qu'elle pouvait prendre, tout en connaissant ses limites. Et ils ont pas essayé d'en faire un trop comme face aux Giants. T'as senti qu'à un moment, ils ont dit, bon, ok, on va prendre des yards, on va prendre des points, mais dans ce cas-là, autant essayer de manger l'horloge et de partir du principe que cette attaque, elle va pas rester muette en deuxième mi-temps comme face aux Giants. Donc, ils ont un peu appris de leur erreur pour devenir meilleurs. Et c'est une belle récompense. Ouais, je me suis beaucoup moqué de Gannon pendant l'intersaison. Je suis peut-être un peu biaisé, je le reconnais. Mais faut avouer que ce groupe, il semble s'être complètement fédéré autour de Gannon et que c'est pas un amas de talent incroyable, mais c'est une équipe qui joue ensemble.
Ah bah non, clairement. Mais comme tu le dis, je pense que c'est un peu comme ça que gagnent ces équipes en général, c'est qu'ils sont bien coachés, ils perdent pas de ballon sur ce match. Ils avaient mené dans leurs deux premiers matchs, mais c'était fait rattraper. Là, bon, c'est aussi un signe de progrès quand même hein, de tenir ces fins de match quand tu les tenais pas au début, avec quand même une équipe jeune ou en tout cas un quarterback très peu expérimenté. Josh Dobbs qui fait pas d'erreur, 17 sur 21, 189 yards, un touchdown, aucune interception. Franchement, c'est quand même une des sacrées surprises du début de saison de voir les Cardinals dans cet état-là. Kyler Murray n'est toujours pas attendu hein, dans l'article petit-déj du lundi matin, vous pouvez le lire. Pour l'instant, on ne sait pas trop quand il revient. Donc ils sont en train de construire quelque chose. Ce sera intéressant de voir comment ils s'intègrent dans la dynamique et dans l'esprit de groupe une fois qu'il sera de retour, parce qu'ils sont quand même en train de construire un petit quelque chose. Les Cowboys ont eu le ballon plus longtemps, ils ont gagné plus de first down, ils ont gagné plus de yards, ils ont eu plus d'actions, mais ils ont aussi eu plus de pénalités avec 13. Il leur a manqué quoi, Victor? Peut-être surtout du réalisme? Parce qu'en vrai, tous les potards sont quand même plutôt de leur côté.
Oui, de gommer quelques erreurs individuelles, je pense que c'est quand même une équipe qui était affaiblie. Alors, en défense, avec l'absence de Diggs, et on a vu que son remplaçant n'a pas brillé. En attaque, avec quand même 3 absences en ligne offensive, hein, si je compte bien. Donc, c'était une équipe qui a eu beaucoup de blessés. En fait, en une semaine, il a fallu changer beaucoup de choses. Et tu sentais qu'il y avait certains automatismes des deux premières semaines qui n'étaient pas là dans la troisième. Donc, et est-ce que la maison brûle? Non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, ils ont perdu un bon match de foot. C'est la NFL, hein. C'est une ligue très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde, on le rappelle à chaque fois. Et les Américains aiment bien dire « any given Sunday ». Voilà, bon, t'as perdu un match que tu devais gagner sur le papier. Bon, bah, à toi de te remettre ta tête à l'endroit. Mais cette équipe des Cowboys, elle a été moins valeureuse et peut-être moins chanceuse. Après, bon, il n'y a rien de honteux dans cette défaite.
Ils avaient commencé par Giants et Jets, hein, ce qui n'était pas non plus les deux premiers matchs les plus difficiles du monde. Ils n'ont pas été bousculés. C'est la première fois qu'ils sont bousculés. Tu le disais, c'est la NFL, donc tu peux perdre n'importe quel jour quand tu n'es pas dedans. C'est un petit réveil pour eux, ça ne remet pas en cause toute leur qualité. Dak Prescott est à 25 sur 40, 249 yards, il se fait intercepter une fois, mais Tony Pollard à 122 yards, il y a toujours quand même beaucoup de bons receveurs. Il y a Micah Parsons qui est là, tu le disais, bon, il manque Trevon Diggs, il va falloir s'adapter à ça, mais... C'est pas un bon match. Après, c'est un rappel aussi que les Cowboys je vais pas dire plus que d'autres équipes, mais c'est vrai qu'ils sont quand même sujets à ce genre de trou d'air. Et c'est aussi pour ça qu'on a souvent du mal à leur faire confiance une fois que les playoffs arrivent pour en enchaîner 3 de suite ou 4 de suite. Donc c'est pas dramatique. La semaine prochaine, ils joueront les Patriots, ils seront largement dans le coup, ils seront favoris. Ils ont une suite de calendrier. Après, il y a les 49ers, Chargers, Rams, Eagles. Ça va se compliquer un petit peu. On en saura peut-être un peu plus sur eux à ce moment-là aussi. Pour les Cardinals, on va finir avec eux parce que c'est quand même la belle surprise, Victor. Est-ce que ça change quelque chose à leur objectif ?
Non, you play to win the game. Donc chaque semaine, ils vont essayer de gagner les matchs. Est-ce qu'ils visaient play-off ? Non, bien sûr que non. Mais ils essaieront de faire un maximum.
J'aime bien parce que je dis à longueur de temps, et j'ai expliqué dans le fauteuil lundi, on essaye d'éviter les anglicismes et tout, et maintenant Victor il se met même à parler dans les...
Ouais, non, alors, tu vois, c'est parce que c'est quand même Sunday, une interview.
You play to win the game.
Non,
tu vois,
c'est une interview très connue de Herm Edward.
Ah bah ouais, mais
you play to win the game.
Oui, mais alors attends, tous nos auditeurs n'ont pas forcément les références d'interviews de Herm Edward, coach qu'ils connaissent même plus au début des années 2000, tu vois.
T'es dur.
Tu vas chercher
c'est,
moi.
C'est
hein,
comme le fameux playoff, tu vois, c'est des trucs que les gens connaissent. Et juste, petite parenthèse de 10 secondes pour dire que Alain est délivré de la malédiction qu'apparemment j'ai récupérée, puisque je hype les Browns, ils perdent et ils perdent Nick Chubb, je hype les Cowboys, ils perdent. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez une équipe que vous voulez voir perdre. Je vous donnerai mes coordonnées bancaires et on s'arrange, mais...
Je m'en serais réjoui et je t'aurais passé le truc avec grande joie, mais le problème, c'est que dans le fauteuil, j'ai annoncé les Saints en play-off qui passent un ou deux tours et Derek Carr s'est fait l'épaule dans les deux heures. Hein, donc
en fait, on sait plus TDA dans un ensemble qui porte malheur.
Alors vraiment, quand j'ai vu Carr sortir sur blessure, ce qui en plus flinguait mon replay du fauteuil dans la seconde, quoi, je me suis dit, mais c'est dingue. Alors évidemment que je crois pas aux malédictions ou tout ça, mais je me suis dit, c'est dingue les coïncidences cette année, qu'on a vraiment pas de bol à chaque fois qu'on parle d'un truc. Bon, alors Rodgers, c'est pas à nous, tout le monde l'a hypé avant le début de la saison, donc voilà. Mais c'est vrai que là, les Browns qui prennent une tôle derrière votre émission, les Cowboys qui perdent Trevon Diggs dans l'émission, Derek Carr qui se blesse juste. C'est, des fois, à une ou deux ou trois semaines près ou quatre semaines, bon, mais là, à chaque fois, c'est juste après, quoi. C'est vraiment assez dingue. Bon,
on n'a pas encore décidé avec Raoul ce qu'on faisait ce jeudi. Hein,
c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai pas encore mon thème de fauteuil de dimanche, donc pour l'instant, vous pouvez encore envoyer vos pots de vin hein, sur nos comptes Twitter ou sur l'adresse mail du site ou des choses comme ça. C'est comme ça que se termine l'épisode de 636 du podcast Jeune Actu. On parle de tous les autres matchs demain dans le débrief complet. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Lucas Vola. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Vous y trouvez aussi des liens pour les réseaux sociaux et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Victor.
Merci à vous, merci à tous.
Et à très bientôt sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.